Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et aujourd'hui, nous sommes avec Robin Comito.
Bonjour.
Bonjour à toi. Tu es le fondateur de l'association Harapan Digaja.
Oui, c'est ça.
Visant à agir activement pour la sauvegarde des éléphants de Sumatra, notamment par la réduction des conflits éléphants-humains.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord ce que signifie le nom de l'association et comment est-ce qu'elle est née ?
Alors, Harapan Digaja, c'est de l'indonésien et ça veut dire « espoir pour les éléphants ». Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques années. Je me suis beaucoup documenté, j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui agissent sur place pour les éléphants, pour la forêt, pour la biodiversité. Et puis moi, c'est surtout voilà, en découvrant la situation des éléphants sur place en Indonésie, à Sumatra, où ils sont à peine un millier, ils sont au bord de la disparition et il n'y a quasiment rien qui est fait par rapport à tous les efforts de conservation qu'on déploie pour d'autres espèces. Ça m'a paru totalement absurde, et c'est là où j'ai voulu vraiment m'engager et agir activement pour cette espèce qui est clé pour la biodiversité et qui est un emblème aussi de l'Indonésie.
Comment est-ce que tu en es venu à connaître ce problème et à vouloir après t'y engager carrément sur le sujet ?
Alors moi, j'ai commencé à m'investir pour l'environnement avec une autre association qui œuvre aussi en Indonésie, une association qui s'appelle Kalawait. Donc j'étais bénévole et j'organisais beaucoup d'événements et de projets de sensibilisation, d'éducation et pour montrer qu'il y avait encore de l'espoir en termes de sauvegarde de la biodiversité. Et donc cette association, Kalawait, qui œuvrait en Indonésie, m'a poussé forcément à m'intéresser à ce pays, à sa biodiversité. Et ce que j'ai vu sur place, c'est que donc il y a beaucoup d'espèces comme, qui sont extrêmement menacées. Hein, c'est un hotspot de biodiversité. Et avec la déforestation et le braconnage, eh ben, on a de très grosses menaces, de très grosses problématiques. Et donc il y a des espèces comme l'orang-outan qui sont particulièrement menacées. Mais il y a beaucoup de projets de conservation qui leur sont dédiés. Le tigre, c'est pareil. L'ours aussi, ça prend forme en Indonésie. Le gibbon aussi, il y a beaucoup de projets. Et l'éléphant, au milieu de tout ça, qui est l'une des espèces les plus menacées au monde. Parce que comme je le disais, on est à à peine un millier d'individus. Et il y avait le double il y a 15 ans. L'éléphant, il n'y a rien. Quasiment rien en comparaison de tout ce qu'on fait pour les autres espèces. Et c'est comme ça que je me suis documenté et j'ai voulu agir concrètement.
Et comment tu expliques ça ?
Ces menaces ?
Non, pas les menaces, le fait qu'il n'y a rien de mis en place pour protéger cette espèce.
Il y a plusieurs facteurs. Déjà sur place, l'éléphant, il n'est pas forcément très... Sauver l'éléphant, c'est pas quelque chose de très sexy en fait. J'avais posé cette question-là justement à des ONG qui œuvrent pour l'environnement à Sumatra et ils me disaient en fait ça fait pas rêver sur place. C'est pas la sauvegarde de l'éléphant, ça fait pas rêver. Quand on dit par contre, c'est différent en Europe. Quand on dit on va sauver les éléphants, tout de suite ça parle aux gens parce que tout le monde apprécie à peu près les éléphants. Donc tout de suite ça parle. Sur place c'est différent. Et puis il y a aussi une question de politique, c'est-à-dire que le gouvernement en Indonésie, le gouvernement de Jakarta, sa priorité, c'est pas du tout l'environnement. C'est pas du tout la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, ils se font de l'argent grâce à l'huile de palme. Donc la forêt, elle pèse pas lourd quoi, par rapport à tous les intérêts, les bénéfices que génère l'huile de palme. Et donc, cette déforestation entraîne une perte d'habitat et forcément donc, une perte extrêmement forte de biodiversité et donc des menaces de plus sur les éléphants.
Est-ce que tu peux nous donner un peu la situation environnementale en Indonésie pour rentrer un peu dans
de
le
manière
contexte
globale.
Ouais.
Alors disons que ces 50 dernières années, on a perdu plus de la moitié des forêts tropicales en Indonésie. L'Indonésie, c'est comme je le disais, un hotspot de biodiversité, donc une région du monde où on trouve une concentration particulièrement forte de biodiversité. L'Indonésie, c'est aussi la troisième plus grande forêt du monde, après celle de l'Amazonie et du bassin du Congo. Elle ne fait pas vraiment partie de ce poumon vert de notre planète. Et comme je le disais, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de menaces et une déforestation particulièrement importante. À Sumatra en particulier, 75% des forêts ont été détruites. Et c'est une déforestation qui continue, elle ne fait que de s'accélérer. Et une déforestation qui donc a lieu pour planter des monocultures de palmiers à huile, cette huile qu'on va retrouver ensuite dans nos produits en Europe, en France, dans les pâtes à tartiner, les biscuits, mais les produits cosmétiques aussi, les biocarburants aussi. Donc beaucoup de menaces, et puis il y a également aussi de grosses problématiques sur le braconnage. C'est intimement lié à la déforestation, hein, bien sûr, c'est au moment où la forêt se réduit qu'on a des problématiques de braconnage. Et en l'occurrence sur l'éléphant, on a aussi une exploitation de l'animal pour les activités touristiques.
Est-ce que tu sais pourquoi l'Indonésie déforeste beaucoup? C'est une de ses principales ressources économiques, comment ça marche?
Oui, en fait, c'est vraiment pour la production d'huile de palme. Et cette huile, c'est l'huile la moins chère du marché. Donc c'est pour ça que l'Indonésie s'est vraiment spécialisée là-dedans. Et donc oui, la déforestation pour ces grandes monocultures. Quand j'étais à Sumatra, par exemple, en février, où j'ai fait un peu un repérage et un état des lieux global des problématiques qu'on trouve sur place, j'ai fait plus de 1100 km de voyage et j'ai pas vu un seul instant de la forêt. Il y avait que du palmier à huile. Donc ils déforestent vraiment pour cette huile qu'ils exportent ensuite chez nous, en Chine, majoritairement.
Et puis tu as parlé aussi un peu de l'industrie touristique qui menace aussi beaucoup la biodiversité.
Oui, alors ça se cible sur certaines espèces. En fait, on voit passer souvent des vidéos sur les réseaux avec des gens qui se mettent en scène avec des animaux, des orang-outans qu'on a déguisés. Voilà, tout ça c'est des activités touristiques où on va utiliser les animaux, on va les déguiser, on va leur faire des spectacles. En particulier l'éléphant, lui, on va vraiment le dresser et c'est particulièrement violent, hein, c'est en thaï, on appelle ça le pajan, qui veut dire littéralement anéantissement, parce qu'on cherche à détruire l'animal psychologiquement et physiquement, le soumettre à l'homme, et ensuite il part dans cette industrie, il est enchaîné, puis on le force à faire des spectacles.
Avec comme au cirque.
Exactement, comme au cirque. L'éléphant, on peut aussi faire des balades sur son dos. On fait des balades comme ça, dos d'éléphant, en forêt. Et puis quand les touristes s'en vont, en fin de journée, les éléphants retournent, ils sont enchaînés, placés à l'isolement et mis dans des conditions de stress physique et mental particulièrement graves.
Et donc, pour revenir à l'éléphant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la place de l'éléphant dans la biodiversité ?
Oui. Alors dans la forêt, c'est vraiment une espèce qu'on dirait clé de voûte. C'est-à-dire que si l'éléphant disparaît, c'est tout un pan de la biodiversité locale qui disparaît aussi. Si on lit certaines études, c'est vraiment ce qu'on nous explique. Aujourd'hui, les forêts tropicales qu'on a en Indonésie, qui sont particulièrement riches, sans l'éléphant, dans le meilleur des cas, elles perdent beaucoup de biodiversité. Dans le pire des cas, elles disparaissent. En tout cas, sous la forme telle qu'on la connaît. L'éléphant, donc, c'est une espèce clé de voûte puisque... Par exemple, c'est un animal qui est particulièrement massif, donc quand il va aller dans la forêt, il va créer de grandes ouvertures, ce qui va permettre à d'autres mammifères plus petits de se rendre aussi dans la forêt. Donc on enrichit comme ça le milieu. Et puis, il permet aussi une régénération naturelle de la forêt, parce qu'en faisant des ouvertures, il fait tomber des arbres, ce qui donne de la lumière à des espèces végétales plus petites, qui ont besoin aussi de lumière pour croître. Et puis, il y a aussi toute une partie sur la dissémination des graines. Donc l'éléphant est vraiment, il crée aussi, j'y pense, des ouvertures dans le sol, des trous, donc ce qui permet de faire des points d'eau pour toutes les autres espèces animales et végétales. Donc l'éléphant est vraiment garant d'un bon niveau de biodiversité au sein de la forêt.
Est-ce que tu as des chiffres sur l'éléphant, sur sa disparition
Alors disons que... dans les années 80, ils étaient 4800, ce qui était pas forcément beaucoup. En 2007, ils étaient 2800, donc on a perdu la moitié de la population, donc 50%. Et aujourd'hui, ils sont à peine un millier. Les derniers chiffres datent de 2019 ou 2017, je crois. Donc là, ces 15 dernières années, on a perdu plus de 50% des éléphants et on annonce leur disparition, leur extinction à l'état sauvage d'ici 2040. Donc c'est dans une quinzaine d'années et ça passe très vite.
Ouais,
moi, j'ai 19 ans et je vois très bien que 15 ans, en fait, ça passe très vite. Et d'ici à demain, on pourrait perdre l'éléphant.
Comment tu expliques que déjà dans les années 80, il y a une si petite population ?
Alors en soi, dans les années 80, oui, ils n'étaient pas forcément nombreux, mais là, c'est vraiment à cette époque-là que la problématique a vu le jour sur les éléphants. Parce qu'après, les populations étaient encore assez stables. C'est dans les années 80 où, en fait, Il y a eu d'abord la déforestation pour le bois, bois tropical qu'on a exporté chez nous, par exemple. Il y a eu aussi des conflits entre les éléphants et les populations locales, puisque avec la déforestation, les éléphants n'ont plus assez de ressources dans la forêt. Ils vivent dans des poches de forêt qui sont devenues trop petites, donc ils en sortent et ils se rendent automatiquement sur les terres des villageois, sur les terrains des agriculteurs. Donc ça génère des conflits, parce qu'un éléphant, ça cause des dégâts sur les
récoltes. J'ai cru comprendre que l'humain avait peur de l'éléphant.
Alors, peur, peut-être pas forcément, mais en tout cas, dans certaines régions du monde, une haine de l'éléphant, oui. Puisque, justement, donc, ça revient sur les conflits. Avec les dégâts qui sont générés par les éléphants sur les cultures, forcément, quand c'est notre seule culture de l'année et que c'est notre seule ressource économique à l'année, un éléphant qui passe comme ça et qui nous détruit tout, ça peut être très énervant. Et c'est totalement légitime, bien sûr, cette colère chez les populations sur place. Sauf que cette colère, donc, elle mène à des cas d'empoisonnement sur les éléphants, des barrières électriques qui sont placées autour des terres, donc qui tuent également les éléphants par électrocution. Dans certaines régions, comme au Sri Lanka, ça peut aller encore plus loin. On met des bombes, des mines dans le sol ou dans les légumes que vont manger les éléphants. Donc il y a vraiment une haine de l'éléphant parce qu'il génère des dégâts.
Il y a des solutions pour éviter cela ?
Alors c'est justement ce que moi j'aimerais mettre en place avec mon association. En Afrique, en Centrafrique, il y a eu déjà beaucoup d'aménagements qui ont été mis en place pour réduire ces conflits. En particulier, ce qui marche le mieux, c'est de mettre en place des patrouilles. On a essayé beaucoup de mettre des clôtures, on a essayé les clôtures de ruches aussi, parce que les éléphants ont une peur des abeilles qui est assez importante. Donc on a essayé, ça marche assez bien en Centrafrique, en Asie c'est différent parce que c'est pas les mêmes espèces d'abeilles, donc on a essayé de mettre en place plein d'aménagements, mais l'éléphant il est extrêmement intelligent, donc des fois on creuse des tranchées par exemple dans le sol parce que l'éléphant n'est pas capable de sauter, donc ça fait comme ça une barrière physique, sauf qu'on a observé que l'éléphant vient combler la tranchée pour passer quand même. Des fois, on voit des vidéos où ils passent sous les clôtures, ils sont au sol et puis ils rampent en fait sous les clôtures pour passer. Donc on a essayé et le plus efficace finalement, c'est de mettre en place des patrouilles parce que ça, l'éléphant aura toujours peur de la présence humaine. Et mettre en place des patrouilles autour des terres de manière à ce que ce soit ciblé, parce qu'on sait hein, où vont les éléphants, quand est-ce qu'ils viennent, c'est aujourd'hui ce qui paraît le plus efficace.
Est-ce que le gouvernement indonésien a un plan pour préserver les éléphants et en règle générale pour préserver la biodiversité ou est-ce que la réflexion n'est pas encore à l'ordre du jour là-bas ?
Alors, oui, il y a des plans d'action. Par contre, ça reste très théorique. C'est-à-dire que... alors, il y a des éléments... juridiques qui sont en place. L'éléphant, c'est une espèce en Indonésie qui est protégée par la loi. Il y a aussi des conventions internationales. L'Indonésie a signé la convention de Jakarta avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est où ils s'engagent à protéger les éléphants et puis à améliorer les conditions de détention des éléphants. Il y a eu aussi des plans d'action, mais dans la réalité des choses, sur le terrain, en fait, ces lois, elles sont trop générales, elles ne sont pas du tout appliquées. Et puis, le dernier plan d'action... qui date, qui était sur 2017-2019, peut-être un peu plus. Ce plan d'action, il a été abrogé par la ministre à l'époque de l'environnement, parce que ce plan d'action parlait de déforestation. Donc dès qu'on parle de déforestation, ça ne plaît pas aux autorités de Jakarta, et ils l'abrogent. Il faut qu'on croie que tout va bien dans le meilleur du monde, alors que sur place, c'est pas du tout le cas. Donc oui, il y a des lois, et il faut s'en servir. Hein. Moi, je veux vraiment m'en servir justement avec Harapan pour la protection des éléphants, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est qu'elles ne sont pas appliquées, en fait.
Et donc du coup, avec ton association, concrètement, c'est quoi ton projet ?
Alors moi, aujourd'hui, je suis en train de faire des repérages pour vraiment mieux comprendre la situation des éléphants sur place, avoir vraiment une vision concrète des choses, parce que se documenter, c'est très bien, mais ça ne vaut pas l'approche de terrain. Ensuite, j'aimerais partir donc, dans les années qui arrivent, très vite, et m'installer sur place et pouvoir créer une organisation indonésienne avec les personnes sur place et construire un projet. Alors d'une part pour les éléphants captifs, Donc j'aimerais construire un sanctuaire pour tous ces éléphants qui sont utilisés par les centres à vocation touristique, tous ces éléphants qui ont été dressés, qui sont enchaînés, qui sont maltraités, pouvoir les récupérer, les sauver et leur offrir une fin de vie digne en forêt avec d'autres éléphants dans des conditions comme s'ils étaient à l'état sauvage. Et la deuxième partie du travail que j'aimerais mettre en place, c'est donc cette réduction des conflits. Et là, ça passe par un travail avec les agriculteurs, avec les villageois, les populations locales, pour les aider à protéger leurs terres sans nuire aux éléphants. Donc là, c'est comme on disait, mettre en place des patrouilles et puis d'autres aménagements pour renforcer l'efficacité de ces patrouilles.
À quel point ton projet de sanctuaire est réalisable ?
C'est-à-dire ?
D'un point de vue, comment ça s'organise ? Comment tu peux faire ça ?
Alors c'est vraiment un travail à mettre en place avec les acteurs de terrain, donc sur place, à Sumatra. Moi je ne cherche pas du tout à arriver et puis à donner des leçons. Hein. Puis même je ne cherche pas non plus à travailler contre les dresseurs qui utilisent les éléphants, qui les exploitent. Il faut travailler avec eux pour faire évoluer les pratiques vers quelque chose de plus vertueux et de plus respectueux de l'éléphant. Après c'est un projet qui... est réalisable si on le mène aussi en partenariat avec les autorités locales. Et puis, encore une fois, oui, avec les ONG, c'est quelque chose qui peut voir le jour sur le court terme, à condition que ce soit soutenu, bien sûr, sur place. Et donc, c'est tout l'enjeu du travail que je veux mettre en place. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place assez vite, en fait, si l'organisation que j'aimerais créer en Indonésie voit le jour.
Et ça va se faire comment, cette mise en place avec les ONG, avec tu sais un peu ?
Alors d'abord, c'est une discussion et des négociations avec le gouvernement, parce que l'éléphant, dans la loi, appartient au gouvernement indonésien. C'est pas comme au Laos, où dans la loi, l'éléphant appartient aux particuliers, et donc si on veut sauver des éléphants, il faut acheter l'animal. Donc là, ça appartient au gouvernement, donc c'est avec eux qu'il faut travailler, et dans l'idée... de manière très concrète et sur le tout début du projet, l'idée ce serait de pouvoir occuper un terrain avec le soutien du gouvernement où on accueillerait de premiers éléphants. Après, encore une fois, ça dépend bien sûr des conditions sur place, parce que ça peut être aussi récupérer la gestion d'un centre gouvernemental à vocation touristique qui utilise des éléphants et faire améliorer les conditions de détention de ces animaux. Et petit à petit, avec le soutien des ONG qui ont quand même une voix sur place, pouvoir acquérir un terrain et... justement construire ce sanctuaire, mettre des aménagements pour accueillir ces éléphants et les laisser évoluer en pleine forêt ou dans les zones un peu de prairies en toute liberté.
Et donc tu me disais en off que l'idée c'était de t'installer là-bas.
Oui, absolument. C'est pour ça aussi que je me rends sur place, parce que c'est important de voir un peu si moi personnellement je me vois vivre là-bas. Et bien sûr, du coup, c'est le cas, hein, du coup. Et c'est vraiment extrêmement intéressant aussi de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs pour l'environnement, mais aussi pour plein d'autres sujets. C'est vraiment une ouverture au monde et une opportunité que je suis en train de me créer en fait avec cette association pour pouvoir ne pas me contenter d'agir en France, mais aussi agir à l'autre bout du monde, là où nous produisons bien sûr aussi des dégâts sur l'environnement.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour cette émission ?
Simplement que donc là on est en train d'effectuer des repérages, que je repars en juillet-août à Sumatra, pour vraiment voir où est-ce qu'on peut agir, comment on peut agir, avec quels moyens, sous quel délai, et que voilà, on peut nous aider sur notre page Eloasso. En tapant Harapan di Gajah, on peut faire un petit don pour nous aider. On levait 2000 euros depuis novembre, donc là on y est presque, on est à 1800-1900 euros. Donc voilà, si on veut nous aider, c'est sur notre page.
Cette levée de fonds, c'est pour...
pour financer les repérages.
Des repérages juillet-août.
Exactement, oui. Il y a aussi eu le soutien du département de l'Isère et de la ville de Vienne pour les deux premiers que j'ai effectués, en Thaïlande en décembre et à Sumatra en février. Et donc là, maintenant... c'est celui de juillet-août qui reste à financer.
Eh ben, merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à une prochaine.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.